Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur Radio 89.5, www.radiodio.org si vous nous suivez via les internets comme l'on dit. Bonjour à tous et toutes, bienvenue en ce jeudi 19 septembre 2019. Bienvenue dans ce programme, l'indicatif l'indique précisément à l'instant. Il s'agit de l'émission consacrée au GREMOS, à l'histoire ouvrière locale. Le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, l'association qui reprend du service en cette saison 2019-2020. C'est un partenariat établi depuis quelques saisons et quelques années maintenant. C'est une émission mensuelle qui vous est proposée sur ces ondes, le troisième jeudi de chaque mois. Et autant vous dire que le GREMOS était dans les starting blocks et prêt à démarrer la saison activement, et d'où cette première émission qui s'est calée un petit peu en dernière minute, mais l'émission est bel et bien là. Nous allons réaliser cette émission spéciale en compagnie de Jean-Paul Gachignard, membre du GREMOS. Donc bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue sur Dio pour nous parler aujourd'hui de la mine. Ça tombe plutôt bien parce qu'on est à quelques jours des journées finalement aussi européennes du patrimoine. Et autant dire que la mine et le puits Courriot va aussi faire maintes propositions durant tout ce week-end. On en reparlera d'ici la fin de cette émission avec des journées portes ouvertes qui sont proposées toute cette fin de semaine du 21 au 22 septembre. De la mine, nous en avions parlé il y a déjà quelques temps sur la fin de saison dernière, Jean-Paul Gachignard, puisque nous avions évoqué les catastrophes minières dans le bassin de la Loire, histoire, questions techniques, retombées sociales et politiques. Cela avait fait l'objet de cette émission du mois de mai dernier. Et précisément, en retour sur le musée de la mine, puisque d'ici quelques semaines également, une exposition va se mettre en place concernant les catastrophes minières précisément. Là aussi, nous l'évoquerons en fin d'émission et dans l'agenda que nous vous proposerons donc à la fin de ce programme. On vous renvoie toujours sur le site dédié du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, GREMOS, gremos.l'autre.net, avec fonds d'archives, bibliographie, émissions mises en ligne au mieux, et puis surtout un site qui va être renouvelé d'ici peu, donc tout neuf sur la toile pour le GREMOS d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Voilà, nous allons donc parler mémoire et monde ouvrier. Nous allons parler patrimoine peut-être immatériel finalement. On a le patrimoine matériel visible, un chevalement, un parc, un musée, du bâti quoi. Mais on va parler aussi de la mémoire, et la mémoire où le patrimoine immatériel peut passer par effectivement aussi les pratiques sociales finalement, les luttes sociales.
Oui, et puis est-ce qu'il faut compter la sécurité sociale ou les systèmes de retraite comme un patrimoine ? Sans doute.
Et oui, bref, en tout cas, voilà pour camper un petit peu le décor, mais pour entrer dans le vif du sujet, vous le présentez, celui du jour et celui d'entame de cette saison. Jean-Paul Gachignard, vous allez nous parler aujourd'hui des caisses de secours miniers dans la Loire au 19e siècle. C'est donc cette première émission que vous avez préparée. Et d'emblée, peut-être commencer par le commencement, et c'est-à-dire nous présenter pourquoi vous avez fait aussi le choix de cette question et de ce sujet aujourd'hui dans cette émission du jour.
Voilà. Alors, bon, le sujet, en fait, il vient d'un colloque qui a eu lieu au Centre historique minier de Louarde, dans le Nord, en avril de cette année, et qui portait sur la santé des mineurs. Et donc, dans l'appel à communication, quand on a vu l'appel à communication, moi et un collègue du musée, Rodolphe Fernandez, on s'est dit, y a quelque chose à chercher en faisant le point sur ce qui s'est fait dans la Loire au 19e. Et donc, on a présenté une communication là-bas, on a parlé des médecins, des hôpitaux des mines, des pharmacies des mines, voilà. Mais on a surtout trouvé beaucoup de choses sur les caisses de secours miniers. On savait qu'il y en avait. On a eu la chance de trouver beaucoup de documentation et ça fait largement un sujet à soi tout seul.
C'est donc c'est ce dont nous allons parler donc durant toute cette émission aujourd'hui. Alors, après avoir présenté le pourquoi et la raison du choix de ce sujet, en effet, peut-être bien de présenter là aussi à nouveau ce qu'étaient ces caisses de secours miniers, quelle a été leur histoire quoi, finalement.
Voilà. Alors, c'était des caisses patronales, c'est-à-dire gérées par les compagnies, mais aussi parfois des mutuelles. Et en fait, on a un système pendant tout le 19e qui est un peu à cheval entre les deux. Et avec finalement trois types d'initiatives. C'est-à-dire on a des initiatives de l'État, à travers principalement le service des mines, les ingénieurs des mines de l'État. On a des réactions ou des initiatives des compagnies, et on a des réactions ou des initiatives des ouvriers. Au départ, le modèle des caisses de secours miniers, il est promu par l'administration des mines, par les ingénieurs de l'État, dès le tout début du XIXe siècle, mais il ne sera inscrit dans la loi qu'en 1894. C'est-à-dire que pendant presque un siècle, les ingénieurs de l'État poussent à un système qui n'est pas obligatoire. C'était une vraie surprise. Ensuite, donc, les compagnies, sous la pression de l'État, des ingénieurs, des préfets parfois, ont mis en place ces caisses, mais elles ne voulaient pas de certains aspects. Par exemple, les ingénieurs, le service des mines, voulaient dès le départ des caisses départementales ou des caisses par bassin, donc des caisses centrales. Et les compagnies, elles, n'ont voulu que des caisses par compagnie, pendant très longtemps, jusqu'en 1866, 1867. Non, même un peu plus tard encore, 1869. Et, puis les ouvriers ont réagi à partir de 1840. Et, ça a donné, entre autres, la Mutuelle La Fraternelle, qui est un moment d'histoire des mineurs de la Loire très important. Voilà. Et en fin de compte, donc, la loi de 1894 sur les caisses de secours pour les mineurs leur a donné un cadre légal. Et après, ces caisses de secours miniers donc, ont été finalement fondues dans les systèmes d'assurance sociale et les caisses de retraite pour les mineurs, à travers la CAROM en particulier.
Quand tu évoques, quand vous évoquez les caisses associées à des compagnies, peut-être qu'on peut resituer ici sur le bassin de quelle compagnie il s'agissait et de...
Alors, dans le bassin minier de la Loire, donc, il y a beaucoup d'affleurements, il y a beaucoup de couches qui vont jusqu'à la surface, hein, contrairement au nord de la France, par exemple. Et donc, il y a eu beaucoup d'exploitants depuis très longtemps. Et au début 19e, on a beaucoup de petites exploitations et on a progressivement... Alors, il y a quelques compagnies plus importantes qui sont mises en place, comme celle de Roche-la-Molière. Et puis, on a au milieu du 19e une concentration des compagnies à travers des rachats de concessions, des rachats d'exploitations, ce qui donne la Compagnie Générale des Mines de la Loire, qui à son tour est fractionnée en quatre compagnies. Mais le point principal, c'est que ça fait beaucoup d'exploitants. Et donc, le modèle par l'État, en fait, les ingénieurs de l'État, les ingénieurs des mines souhaitaient que les employeurs prennent en charge un certain nombre de questions sociales, en particulier les secours financiers aux blessés dans les accidents, les secours aux familles des mineurs morts, c'est les principales raisons au départ. Et donc, on fait pression sur les compagnies pour qu'elles créent ces caisses. Après, il y a toute la question du financement. Dans le modèle de l'État, on a dès le départ un financement par les ouvriers. L'idée du modèle de l'État est un modèle paritaire, c'est-à-dire financement par les ouvriers et par les employeurs. Bon. Et les compagnies, elles, l'interprètent comme financement par les ouvriers. Et elles ne se mettront à mettre leur propre financement en regard que quelques dizaines d'années après. Voilà. Et même la création de ces caisses, au début, elle se fait très laborieusement sur plusieurs dizaines d'années, jusque vers 1840 à peu près.
Alors, si on va un petit peu plus loin dans la question, en fait, puisque vous y avez répondu partiellement peut-être, oui. C'est en fait qui a véritablement créé ces caisses et pour quelles raisons est-ce que, effectivement, parce qu'aussi dangerosité, pénibilité du secteur, on va dire, à l'époque, voilà.
Ah oui, bien sûr, le danger des mines, c'est capital, c'est reconnu depuis très longtemps, c'est effectivement le facteur majeur. Alors donc c'est bien les compagnies qui créent ces caisses, hein, mais sous la pression de l'État. Ça n'est pas de leur propre initiative. Ce qu'on voit, c'est que les compagnies les plus importantes, prennent plus facilement l'initiative. Par exemple, il y a Fleur de Lix qui est maire de Rive-de-Gier vers 1815 même, qui propose de créer une caisse centrale à Rive-de-Gier. Bon, puisque c'est à ce moment-là, c'est un des plus gros exploitants de la ville, et le plus gros propriétaire aussi. Et il le propose, mais ça ne se fait pas parce que les autres ne sont pas d'accord avec lui. Les autres compagnies ne veulent pas risquer d'être sous sa coupe, etc. Voilà. C'est pour ça que le modèle de caisse centrale ne se fait pas. Il se fait compagnie par compagnie. Les compagnies aussi, adaptent l'idée de l'État à leur manière, c'est-à-dire que pour elles, c'est une manière de fidéliser les ouvriers ou même de les empêcher de partir. Puisqu'en gros, quand on change de compagnie, on perd tous ses droits. Donc on perd en particulier des droits à retraite qui sont très faibles, mais voilà, ça veut dire que vraiment, il n'y a plus rien. Vous changez d'employeur, vous n'avez plus rien, quoi. Donc c'est vraiment très, très lourd aussi de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Bien, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être pour poursuivre, quelles ont été les réactions des ouvriers? Mais vous dites que ces caisses ont été créées sous la pression de l'État.
Oui.
Est-ce que ça ne s'est pas fait aussi, vu que ça ne semblait pas être de l'initiative des compagnies? Est-ce que ce ne serait pas aussi sous la pression précisément des ouvriers ou en tout cas des mineurs, quoi?
Oui, ça c'est l'idée qu'on a souvent. Mais en fait, c'était une des surprises de cette recherche. C'est non, il n'y a pas eu de pression des ouvriers au départ. Hein. Mais par contre, il y a eu des réactions nombreuses et intéressantes et importantes. Mais les premières réactions ouvrières qu'on a retrouvées, c'est en 1840, lors de la grève des mineurs de Rive-de-Gier. La demande des mineurs, c'est de ne pas cotiser. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on leur prenne les 5 centimes par jour. Voilà, enfin, les 2%, puisque c'est des retenues de 2%.
Pas de prélèvement sur les salaires, mais que ce soit aux frais des compagnies. Quoi,
au départ, ils disent on veut pas payer. Bon, et puis après, alors, dans les réactions qu'on trouve très rapidement dans les années 1840, et ça a été aussi une surprise, parce que ce n'était pas écrit dans les histoires, on a trouvé beaucoup de procès par les mineurs. En fait, puisque dès qu'il y avait blessé, dès qu'il y avait des conditions qui ne convenaient pas aux mineurs blessés ou aux familles des morts, elles allaient très souvent faire un procès devant la justice de paix, donc la justice de proximité. Voilà. Et ça agaçait beaucoup les compagnies, même si je pense que financièrement, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Mais par contre, ça agaçait beaucoup les compagnies. Voilà. Et puis, et aussi, à chaque grève, on voit ressortir, par exemple en 1853 à Rive-de-Gier, on voit ressortir le fait que ces caisses, c'est inextricable, personne n'y retrouve rien, qu'autrefois c'était mieux fait, que les compagnies n'ont pas envie de payer les indemnisations. Il y a une grève aussi dans une mine de Saint-Étienne en 1850, parce qu'il y a un gars qui a été pris sous un éboulement, puis après il a fini sa journée de travail, mais le lendemain, il n'est pas sorti de son lit et 3 mois après, il en est mort. C'est-à-dire qu'il a fait une grosse déprime, il a été complètement choqué. Voilà. Et donc, les mineurs se mettent en grève en disant « Non, mais lui aussi, il faut secourir la famille. » Voilà, on a ce type de réaction. Et puis, donc, en 1866, il y a 2 mineurs qui font un procès à leur compagnie, donc à 2 compagnies, et ils refusent de payer la retenue sur salaire parce qu'ils réclament un droit d'accès au compte. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement 2 mineurs, c'est-à-dire c'est un procès collectif. Les mineurs du bassin, ou un certain nombre de mineurs du bassin, se sont organisés entre eux et ils ont fait des bons de cotisation à verser, etc. Et ils ont embauché un avocat très connu à l'époque, qui est Jules Favre, qui est un avocat républicain, un homme politique aussi, voilà, qui vient plaider le procès à Saint-Étienne. Et la justice les retoque. Bon, parce qu'entre-temps, les compagnies ont quand même donné un peu accès aux comptes. Donc la justice dit non, mais bon, dans ce cas-là, c'est déjà fait. Voilà, bon. Et ensuite, on a la création de la mutuelle La Fraternelle, qui se fait non seulement dans la foulée du procès de 1866, mais en fait, on voit bien d'ailleurs, vu les statuts de La Fraternelle, il y a 50 ou 60 articles, enfin c'est assez long, et on voit bien avec le détail de tout ce qu'il y a là-dedans, qu'en réalité, ces statuts ont été discutés par les mineurs longtemps avant, qu'ils ont d'ailleurs été négociés avec le préfet aussi pour ne pas être retoqués par le préfet, et donc la mutuelle, la fraternelle est créée immédiatement après le procès, exactement dans les mêmes jours.
On va faire une petite pause musicale avant de rentrer plus en détail effectivement sur cette caisse La Fraternelle avec un choix musical qui revient sur une grève de mineurs, quoi, précisément. Si vous voulez introduire le morceau, Jean-Paul Gachignard, il s'agit de la chanson Le Chant du 16 juin 69.
Voilà.
À Larry Camari.
Dites aussi la chanson de Larry Camari, plus connue sous le nom de la chanson de la chant de Larry Camari, chanson de Larry Camari, donc par Rémy Doutre, qu'il compose juste après la fusillade du Brûlé, et dont les premiers vers sont complètement en rapport avec le sujet, puisqu'ils réclamaient leurs droits par une grève immense. Leurs droits, c'est beaucoup, les droits sur les caisses de secours. Les droits de contrôler quel usage est fait des cotisations, d'avoir bien accès aux comptes et de ne pas être, comment dire, complètement verrouillé par les employeurs.
Ils réclamaient leurs droits par une grève immense. Nos courages mineurs aux traits noirs brillants. Plus de bras au travail, donc un morne silence règne autour de leur puits, naguère si bruyant. Mais hélas, tout à coup, la fusillade tonne. Puis on entend des cris de douleur et d'effroi. La poudre est en fumée et le clairon résonne. 11 frères sont morts en réclamant un droit. Soldats, lorsque vous massacrez des frères sans défense, vous êtes des bourreaux. On a tué l'enfant dans les bras de sa mère, égorgé lâchement une femme à genoux, un paisible vieillard qui défrichait sa terre en ce moment fatal, servi de cible au cou. Les voilà sur le sol et dans le sang qui coule. Vont se mêler les pleurs que versent leurs parents. Consternés autour d'eux, on voit aussi la foule, muette de terreur devant leurs corps sanglants. Soldats, lorsque vous massacrez des frères sans défense, vous êtes des bourreaux. La cour de l'hôpital est pleine de victimes, de morts et de blessés, de simples curieux. On se dit en pleurant quels étaient donc leurs crimes pour tomber à jamais sous leurs coups furieux. Ici, c'est l'orphelin qui pleure père et mère, une femme en sanglots près d'un corps d'enfant. Là-bas, un ouvrier qui reconnaît son frère parmi tous ces débris de chair morte et de sang. Soldats, lorsque vous massacrez des frères sans défense, vous êtes des bourreaux. Le champ du repos, un funèbre cortège, immense et menaçant, porte 12 cercueils. On pleure encore, on entend, le dirais-je, des lamentations, tous les tristes recueils. On parlera longtemps, soldats, de ce fait d'armes. À vous nos souvenirs, tristes célébrités. Mais il se peut qu'un jour vous versiez sang et larmes. Souvenez-vous alors du mot fraternité. Soldats, lorsque vous massacrez vos frères sans défense, vous êtes des bourreaux.
Larry Camari, chant du 16 juin 1869, un texte de Rémy Doutre. Une chanson 1869 précisément, d'après une mélodie de Maurice Galland, interprétée là par Béatrice Moulin au chant, et puis Nathalie Fortin au piano. Une chanson qui fait partie, faut-il le rappeler, du recueil poèmes et chansons sur les mines et les mineurs de la Loire 1815-1914, un livret CD, Pauvres mineurs, mineurs joyeux, auquel vous avez largement participé, d'ailleurs, Jean-Paul Gachignard, qui est paru via la ville de Saint-Étienne, et précisément le Pucourio, Parc Musée de la Mine. Stéphanois, on est avec Jean-Paul Gachignard dans cette émission du Grémos, le troisième jeudi de chaque mois, émission consacrée à la mémoire et à l'histoire ouvrière locale, avec le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui reprend du service cette saison 2019-2020. Une première émission consacrée donc en ce mois de septembre aux caisses de secours miniers ou caisses de secours minières, je ne sais comment il faut dire.
On peut dire les deux.
On peut dire les deux, au 19e siècle. Alors vous présentiez ce titre là que l'on vient d'écouter juste auparavant, en l'introduisant et en expliquant, précisant que c'est aussi de par la mobilisation, la lutte, la grève, que des droits aussi, en ce sens, ont été obtenus. Et vous évoquiez cette caisse emblématique qu'est la Fraternelle. Donc ce serait peut-être l'occasion là, eh bien, de préciser également et de nous en dire davantage sur cette caisse, la Fraternelle.
Oui, bien sûr. Et donc... La grève, la grande grève de 1869, qui, enfin, pendant laquelle se passe la fusillade du Brûlé, donc quand Doutre dit qu'ils réclamaient leurs droits par une grève immense, les droits, c'est beaucoup des droits sur les caisses de secours miniers. Des droits de contrôler l'usage des cotisations, des droits de transparence, des droits même de gérer. Hein. Et donc la Fraternelle, c'est une mutuelle ouvrière. C'est un cadre, pour le coup, qui est connu dès le début du 19e. C'est-à-dire que là, les employeurs ne payent pas et ils ne contrôlent pas. C'est entièrement créé et contrôlé par les ouvriers mineurs. Et donc, en réaction, justement, à ces caisses de secours miniers qui étaient contrôlées par les compagnies, qui étaient pour eux opaques et qui ne versaient pas suffisamment de secours. Donc, elles se développent très rapidement, puisqu'elle compte 5000 cotisants en 1868. À ce moment-là, c'est par ses réserves financières, c'est la deuxième mutuelle ouvrière du département. La plus grosse, c'est celle des Chapeliers de Chazelles-sur-Lyon. Mais la deuxième, c'est celle des mineurs de la Loire, voilà. Avec des réserves financières vraiment très conséquentes. Bon, on le sait, puisque pendant cette période-là, le Second Empire libéral encourage les sociétés ouvrières, mais ils les contrôlent aussi, et ils publient l'état de leurs réserves financières. Alors, la Fraternelle, pour ses promoteurs, ou pour au moins une partie d'entre eux, elle est vécue comme devant remplacer les caisses de secours miniers des compagnies. Bon, ça se voit dans certains propos, dans certaines déclarations. Bon. Et après la grève de 1869, elle décline assez rapidement. Bon, d'abord, il y a des procès qui touchent beaucoup des dirigeants de la Fraternelle. Il y a le fait que les mineurs sont découragés. Puis derrière, ensuite, il y a la guerre de 1870 et les communes, dont celle de Saint-Étienne. Voilà. Comment dire ? Alors quand même, je vais revenir un peu sur l'objet de la Fraternelle. En vous lisant un extrait des statuts, donc elle a pour but d'accorder aux sociétaires malades les secours du médecin, mais pas les médicaments, et elle a pour but d'accorder des aides financières. Elle pourra attribuer des aides financières aux malades devenus incurables, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins. Elle souhaite aussi pouvoir servir des retraites et des aides aux infirmes. Donc on voit que, finalement, le champ qu'elle couvre, c'est celui de toutes les institutions de protection sociale aujourd'hui, ou de presque tout, quoi, enfin des plus grandes. Dire aussi maladie, infirmité, retraite, secours aux accidents du travail, voilà, c'est un champ énorme. On voit aussi, par exemple, qu'elle prévoit de prendre à charge des dépenses que la loi de 1810 et le décret de 1813 mettent à la charge des employeurs. À savoir, le décret de 1813 dit si un mineur est blessé, la compagnie doit payer son traitement médical. Elle dit pas au-delà, elle dit pas elle doit le nourrir, elle dit pas bon, mais comment dire, il y a des discussions d'interprétation ensuite.
Là, ça dessus. C'est le décret de 1813, c'est donc Napoléon Ier.
Tout à fait.
Qui prend cette décision à la suite de plusieurs catastrophes minières et donc il impose aux exploitants d'observer des mesures de sécurité finalement et donc de prévoir et de prendre en charge ces dépenses liées aux accidents. Et comment ça se passe, ces caisses donc de prévoyance? Elles étaient alimentées, vous le disiez tout à l'heure, à la fois sur le prélèvement des salaires, à la fois par quoi, contribution patronale,
oui, contribution
intervention et subvention de l'État.
Subvention de l'État relativement peu, rien de systématique et de régulier, contrairement à ce qui se passera à la fin du 19e. Comment dire ? Et d'autre part, les compagnies dans la Loire traînent des pieds à peu près le plus longtemps possible pour la part patronale. Voilà. Donc elles prétendent. Alors, sachant aussi qu'il faut un peu nuancer le propos, puisque dès les premières caisses de secours miniers, on s'aperçoit qu'il y a une représentation ouvrière. Et ça aussi, c'est un sujet très intéressant. On est dans la préhistoire des délégués ouvriers, finalement, des délégués des employés. Voilà, donc bon, après, ce qui fait la richesse du sujet dans la Loire, c'est qu'il y a eu beaucoup de caisses de secours miniers dont les statuts sont conservés, qu'on peut les comparer entre eux, on peut voir où ça évolue, comment ça bouge, qu'est-ce que c'est, etc.
Est-ce qu'il y a tout de même eu une sorte d'harmonisation, on va dire, des caisses suivant les compagnies? Alors, pour éviter justement aussi des disparités, quoi, finalement. Parce que finalement, les différentes compagnies, que ce soit Roche-la-Molière, je ne sais pas moi, Saint-Étienne, Saint-Genélaire ou la Talaudière ou je ne sais où, s'inquiètent toutes de la santé finalement de leurs ouvriers, de leurs employés. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les accidents sont nombreux à cette époque. Et l'idée était aussi de lier l'ouvrier à sa compagnie, quoi,
tout
finalement.
Tout à fait, oui.
Parce que, vous l'avez dit, il perdait tous ses droits s'il en changeait, quoi, finalement.
Oui. Alors, comment dire, sur la santé des ouvriers, on ne peut pas dire que les compagnies les négligeaient totalement. On ne peut pas dire non plus que c'était une préoccupation majeure. Comment dire, excusez-moi. Comment dire ? Oui, les grosses compagnies, donc surtout après 1854, ont un peu effectivement harmonisé leurs pratiques. Et puis surtout, après la grève de 1869, elles ont créé une caisse centrale voilà, qui regroupe les principales. Roche-la-Molière n'en fait pas partie, mais s'aligne sur les pratiques. Voilà. Et au passage, le bassin de la Loire est le seul en France où il y a eu une caisse centrale avant la loi de 1894. Dans les autres bassins, c'est resté par compagnie. Donc là, oui, il y a une évolution. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus la compagnie est importante, plus elle est prospère, plus elle cherche à prendre en charge tous les aspects de la santé, y compris assez largement au-delà. Bon, la Compagnie Générale des Mines de la Loire, donc entre 1845 et 1854, étend le bénéfice des pharmacies des mines aux familles des mineurs, et donc pas seulement des blessés, mais aussi des malades simplement, et pas seulement les mineurs, mais aussi les femmes et les enfants. Voilà, donc là on voit que c'est une politique paternaliste et qui étend au-delà. Mais évidemment, c'est les plus grosses compagnies qui peuvent le plus supporter ce type de dépenses.
Alors, c'est intéressant aussi peut-être d'expliquer comment à cette époque se développe aussi finalement aussi tout un alors, système, je sais pas, mais de santé quoi finalement, avec aussi des comment dire des espaces, des bâtiments dédiés. En fait, c'est aussi à cette époque, question hein, que je pose, que se développe, je sais pas, des hôpitaux par exemple. On en voit beaucoup sur plusieurs communes où se trouvent précisément des puits de mine, des hôpitaux, des lits bien sûr qui sont destinés aux blessés légers, à la fois aux blessés graves. Les établissements hospitaliers stéphanois sont les principaux pour peut-être la prise en charge de ces blessés plus graves. Différentes interventions chirurgicales possibles, des services de radiologie, des dispensaires aussi qui sont installés. C'est intéressant aussi d'évoquer et les pharmacies dont vous parliez aussi à l'instant.
Oui, alors, bon, la radiologie, c'est beaucoup plus tard. Hein. C'est vraiment au XXe siècle, puisque les rayons X.
Oui, des années 1930, quoi.
Les rayons X, c'est inventé avant, mais ça développe beaucoup pendant la Première Guerre mondiale. Mais comment dire ? Oui, alors, effectivement, les premiers hôpitaux des mines, donc, sont créés avant. La première qui en crée un, c'est Roche-la-Molière, si mes souvenirs sont bons. La Compagnie Générale des Mines de la Loire, c'est vers 1848 qu'elle en crée trois, exactement. Il ne faut pas trop se tromper, ce n'est pas des gros établissements. À cette époque-là, on a très peu de renseignements là-dessus, donc c'est un peu compliqué, mais ce qu'on trouve, l'un des principaux compte 8 lits, l'autre en compte 12. Voilà, donc c'est des petites structures. Pour les compagnies minières, un des gros avantages, c'est que justement, si elles payent elles-mêmes leur propre hôpital, si elles ont créé leur propre hôpital, elles ne sont pas obligées de payer des journées aux hospices, puisqu'on appelle ça des hospices à l'époque, municipaux. Et donc, si elles payent aux hospices municipaux, ben, d'une certaine façon, elles payent parfois leurs opposants. Par exemple, la municipalité de Saint-Étienne est opposée à la Compagnie Générale, qui, de la cause, n'a pas envie de payer pour un service municipal. Voilà. Pour les pharmacies, on a trouvé quelques renseignements. J'ai la citation dans mes papiers, ça va être un peu compliqué de retrouver ça là-dedans, mais en gros, y a un ingénieur qui fait un état de ce qu'il y a dans les puits à Saint-Étienne et autour. Qu'est-ce qu'on trouve ? Alors on trouve essentiellement de l'eau de vie camphrée, on trouve des vieux linges, pour faire des pansements dans les blessures. Bon, on se pose la question, parce que si les vieux linges ont traîné dans le bureau de la mine depuis plusieurs mois, ça risque de pas être formidable. On trouve de l'huile de lin, très utile pour soigner les brûlures. Voilà. Et encore, pas dans tous les puits. Donc voilà, dans un puits, on trouve deux choses, dans un puits, on en trouve trois. Enfin, voilà, on trouve deux brancards dans un puits. Voilà, donc c'est des pharmacies, entre guillemets, extrêmement rudimentaire. Bon, ça correspond à la fois aux connaissances de l'époque, mais aussi au fait qu'il n'y a pas de réel suivi. Si vous ne tenez pas à jour votre mallette à pharmacie ou votre tiroir à pharmacie, ça va poser des problèmes.
Donc il y a la pharmacie des mines. Est-ce qu'il y a des bâtiments de caisses de secours précisément ?
Non. Non, il n'y a pas de bâtiment spécifique. En réalité, les caisses de secours sont gérées par les compagnies, ce qui veut dire que c'est le caissier de la compagnie qui encaisse l'argent et après qui verse si le directeur lui en a donné l'ordre. Enfin, il y a, comment dire, dans un certain nombre de cas, il y a des conseils d'administration qui ont été mis en place avec une représentation des ouvriers. Ça peut être de beaucoup à très peu. Et donc, dans un certain nombre de cas, par exemple, c'est le président de la caisse de secours qui signe le bon pour le, et qui n'est pas forcément le directeur de la mine pour le coup, qui signe le bon pour accorder les secours. Mais c'est souvent aussi le directeur de la mine qui est de droit le président de la caisse. Donc, dans ce cas-là, comment séparer ?
Est-ce que, finalement, ces caisses de secours sont satisfaisantes pour les mineurs et ouvriers qui ou mettent en place des sortes de complémentaires, quoi, finalement, par des caisses qui pourraient être, je ne sais pas, de solidarité
Satisfaisante, non, puisqu'on voit bien que ça provoque d'assez fortes réactions des mineurs, hein, les procès individuels, ensuite la fraternelle, et finalement on est dans les origines du syndicalisme minier. La fraternelle, c'est une mutuelle complémentaire. C'est pas la seule mutuelle de mineurs qu'il y a eu dans le bassin. Il y en a eu deux autres, mais les deux autres étaient très petites. Hein. C'était pas du tout en proportion. Comment dire ? Et la fraternelle, elle n'a duré que quelques années. Elle n'a pas remplacé finalement les caisses tenues par les compagnies. Voilà. Non, c'est ainsi. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, on n'est pas dans une logique d'indemnisation, on est dans une logique de secours financier. C'est-à-dire, il s'agit d'éviter la misère. Il ne s'agit pas de dire on va compenser un manque à gagner. Il s'agit juste d'éviter la misère complète. Le fait d'aller mendier dans les rues, puisque vu qu'il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque, il n'y a rien de tout ça. Donc, si vous perdez votre possibilité de travailler, vous n'avez plus aucune ressource. Enfin, sauf si vous avez accès à un jardin, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et en plus, bon, tous les blessés des mines restaient souvent infirmes. Donc, bon, on a aussi ces questions-là. Donc non, même, comment dire, après la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui est une loi tout à fait fondamentale, les secours restent assez faibles. C'est 20% du salaire du mari à la veuve, 20%. Donc sur des salaires qui n'étaient pas mirifiques, même si les mineurs étaient plutôt mieux payés que d'autres ouvriers, c'est quand même pas la fortune, quoi.
Alors pour résumer, finalement, parce qu'on voit bien qu'on l'a, finalement les mines sont un peu à l'origine du premier système français de protection sociale aussi. Mais finalement, que prenait-elle en charge ? Qu'est-ce qui était pris en charge à l'époque, donc sur le 19e, puisque c'est la période sur laquelle vous travaillez, entre caisse de secours et mutuelle, comme la fraternelle précisément ? Qu'est-ce qui était pris en charge et proposé aux mineurs ouvriers ?
Alors, ce qui était pris en charge, donc les secours aux blessés, les secours aux familles des morts, là on trouve ça dans tous les statuts, les médicaments et aussi les salaires des médecins. Alors là on s'aperçoit que les compagnies se sont mises hors la loi. Elles n'ont pas respecté le décret de 1813 qui disait expressément que les médicaments et les médecins pour les blessés dans les mines c'était à charge des compagnies et non pas à charge de cotisation des ouvriers. Là, on s'aperçoit que non, elles ont été de l'autre côté de la ligne. Pas toutes. Hein. Après, ça a varié avec le temps. C'est-à-dire que dans les années 1830-1840, les compagnies ont une version très restrictive des caisses de secours. Et puis, plus le siècle avance, plus elles tendent à couvrir de plus en plus de choses, plus elles tendent aussi d'ailleurs à prendre en charge de plus en plus de dépenses. Un certain nombre, par exemple la compagnie de Mont-Rambert, qui est une des quatre issues de la compagnie générale, qui a une politique très, très paternaliste, c'est-à-dire qui vraiment prend en charge tous les aspects de la vie des mineurs, et par contre fait la chasse aux précurseurs du syndicalisme qu'on trouve à l'époque. Bon, elle décide dans les années 1870 qu'elle va payer toutes les dépenses de la caisse de secours. Voilà. Il n'y aura plus de retenue sur les salaires des mineurs, comme ça il n'y a plus de contestation de ce côté-là, et elle contrôle tout. Les compagnies étendent les prestations, les plus grosses, hein, les plus prospères. Ça va aussi. Donc, on voit les premières retraites pour les mineurs arriver, mais je vous ai dit avec des conditions assez restrictives, du genre 30 ans dans la même mine. Donc, si vous avez 29 ans, qu'est-ce qui se passe ? Les secours aux infirmes aussi, c'est couvert en partie, hein, avec des standards qui sont très très loin des standards d'aujourd'hui, par contre.
Très bien. Pour finir, peut-être Jean-Paul Gachignard, et ouvrir finalement cette question, est-ce qu'on peut voir des liens entre ces caisses de secours miniers ou minières et la sécurité sociale aujourd'hui, ou les caisses de retraite
Bien sûr. Oui, on est. Alors, c'est pas la seule préhistoire des caisses de retraite ou de la sécurité sociale, mais c'est quand même une des principales. Et c'est vraiment le bassin de la Loire, de ce point de vue-là, qui a été le laboratoire de ces discussions et des réactions ouvrières, et donc aussi des doctrines syndicales, à travers en particulier Michel Rondet. Par exemple, ces caisses de secours miniers, c'est de là que vient le modèle de financement et de gestion paritaire des institutions, caisses de retraite, chômage. Cette idée du financement à part égale par les employés et par les employeurs, Elle vient en fait de cette imagination des ingénieurs des mines de l'État aux environs de 1800. Voilà, c'est de là que ça vient. C'est la préhistoire de ces choses-là. Et on voit par exemple que les mineurs ont beaucoup insisté aussi pour que les... Comment dire, sur ces questions-là, mais aussi sur la capacité, sur le fait qu'ils devaient intervenir dans la gestion de ces caisses. Voilà, donc bon, c'est des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui, même si aujourd'hui on assiste à une étatisation de ces institutions progressive.
Oui, c'est sûr que c'est complètement en lien avec les questions d'actualité, je pense aux retraites notamment, par exemple. Mais ça a été très compliqué aussi, on va dire, alors, là on sort de la période du 19e, oui. Hein, mais sur ce 21e siècle aussi, il y a eu beaucoup de redéfinition un petit peu de ce que recouvraient les cotisations, la gestion, c'était les risques vieillesse, invalidité des anciens mineurs, les ayants droit, des caisses autonomes nationales de sécurité sociale dans les mines, puisqu'encore jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 2007, les principales sociétés de secours minière géraient l'assurance maladie. Cette union régionale gérait le risque accident du travail, les maladies professionnelles, pilotait l'action sanitaire et sociale. Et puis on a vu la disparition du régime minier, faire basculer aussi ça dans le régime général de l'assurance maladie. Enfin, c'est quand même très complexe là aussi.
Oui, simplement là, on est sorti de mon domaine d'expertise.
Tout à fait.
Parce que moi, j'ai travaillé sur le 19e et je n'ai pas travaillé sur le 20e et donc j'en
connais. Mais peut-être que ça avait encore ses répercussions jusqu'à aujourd'hui, quoi. Enfin, jusqu'à hier. Quoi.
De toute façon, ce modèle du financement paritaire et de la gestion paritaire vient de ces choses-là. Donc là, ça n'est pas terminé aujourd'hui.
Très bien. On va faire une petite pause musicale pour conclure Jean-Paul Gachignard avant de parler des rendez-vous précisément à venir sous forme de petit agenda qu'on vous a préparé. On fait une petite pause, on a parlé d'histoire ouvrière et minière locale. On va parler d'histoire, celles qui sont souvent racontées. Et on parlait tout à l'heure aussi de patrimoine immatériel et donc aussi parfois de tradition orale. Ce groupe-là a pour habitude de reprendre aussi des histoires dans l'histoire, et celles ouvrières en fait très largement partie. Ils ont pu l'illustrer lors de leur prestation cet été, précisément au pied du Chevalement sur le parcours Rio, lors des biforts et des guinguettes estivales proposées ici à Saint-Étienne. Le groupe propose une sorte de folk rock assez trad dans notre bonne vieille ville de Saint-Étienne, en souvent, je le disais, reprenant quelques histoires sociopolitique, on va dire. D'histoire, il en est question au travers de ce titre qui est chanté en anglais. Ça s'appelle Cavalerie pour cette formation stéphanoise et le titre là que je vous propose s'intitule tout simplement Stories.
I've got 99 stories to tell, where my father turned insane,
in the suburbs down now,
in the suburbs down now.
I've got 99 stories to tell, where my father turned insane.
I'll let it go, I'll let it go, one day further you will know that no one here complains.
I've got 99 troubles to sell, where my woman left away,
in the suburbs down now,
in the suburbs down now.
I've got 99 troubles to sell, where my woman left away.
Let it go, let it go, one day further you will know that no one here complains.
I've got 99 hangovers to tell, no, I'll sleep on the doorway,
in the suburbs down now,
in the suburbs down now.
I've got 99 hangovers to tell, no, I'll sleep on the doorway. I'll let it go, I'll let it go, one day further you will know that no one here complains. I know 99 back roads to hell, but I keep them locked away,
in the suburbs down now,
in the suburbs down now.
I know
know 99 back roads to hell. But actually, if I'm locked away, I'll let it go, I'll let it go. One day further, you will know that no one here complains.
Voilà, c'est Cavalerie, donc ce groupe de Saint-Étienne qui propose ce titre Stories qui commence à dater mais qui est toujours finalement plaisant à écouter. Tout cela pour vous annoncer que Cavalerie sera en concert cette fin de semaine d'ailleurs. C'est une actualité de cette semaine et cette rentrée de septembre. Ce vendredi 20 septembre, une très très belle soirée proposée par le Café Lecture Le Remue-Méninges à Saint-Étienne, qui est situé 43 rue Michelet désormais à Saint-Étienne, depuis leur déménagement il y a quelques temps déjà. Et ils auront le plaisir là aussi de partager l'affiche avec une sacrée formation. C'est un beau duo qu'on a très largement aussi défendu sur cette antenne, qui nous vient de Belgique. On a vu tourner pas mal à la fois dans le cadre du Rhino Jazz, qui là aussi va s'ouvrir et qui fait son lancement d'ailleurs ce 19 septembre et qui va se prolonger tout ce mois d'octobre. Ils avaient joué dans ce cadre-là et on les a vus aussi programmés dans le cadre de l'Atawa, si je ne me trompe. C'est un duo qui est composé d'un Canadien et d'un Français, mais c'est un projet belge. Voilà, et ça s'appelle The Summer Rebellion. Rebellion avec Cavalerie. C'est une très très belle affiche qui est proposée ce vendredi 20 septembre à partir de 21h donc au Café Lecture Le Remue-Méninges. Ça me permet de faire transition avec Le Remue-Méninges parce que précisément Le Remue-Méninges sera présent tout le week-end du côté de Courriot. Alors Jean-Paul Gachignard, vous devez être informé de cette actualité, de cet agenda chargé de cette fin de semaine également, parce que ce sont les Journées Européennes du Patrimoine qui se tiennent ces 21 et 22 septembre. Et donc le Café Lecture associatif stéphanois sera présent, sera installé dans la cour de Courriot et va pouvoir proposer des animations autour de l'écriture en lien avec le lieu. Un coin lecture aussi bien sûr sera proposé, et puis les ouvrages toujours disponibles issus du centre de documentation du musée qui seront en consultation libre. Voilà, c'est dans la grande cour donc, samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 18h pour le Café Lecture Le Remue-Méninges, présent donc sur place tout ce week-end. Et puis pas mal d'autres propositions faites sur ces journées portes ouvertes et journées européennes du patrimoine à Courriot. On peut tout de même annoncer un petit peu on va dire les informations pratiques et le contenu programme proposé. D'abord, ouverture du site de 10h à 23h le samedi. Pour dimanche, c'est de 10h à 18h. Vous aurez l'occasion de pouvoir, par exemple, apprécier dans la petite cour et la salle d'exposition 6 siècles d'aventure ou hier. Le spectacle dansé par la compagnie du Grand Delta, un spectacle de danse participatif intitulé Pour le meilleur, qui sera joué samedi en petite forme, 14h30, 15h30, 16h30, on va dire toute l'après-midi, et spectacle à 19h, et puis dimanche également, des petites formes, 10h30, 11h30, 13h30, et le spectacle proposé à 16h. Un autre spectacle là qui est proposé en continu le samedi de 18h à 23h, c'est une œuvre interactive sonore et lumineuse par le duo Skenocosme. Ça s'appelle Light Contact. Là aussi, vous pouvez aller apprécier dans le grand lavabo cette œuvre interactive. Et puis on va terminer par d'autres petites propositions, parce que les médiateurs culturels du parc Musée de la Mine invitent aussi toujours le public à découvrir des domaines et espaces inexplorés. Alors par exemple, il y aura le travail des femmes qui sera à l'honneur, le travail des femmes à la mine, c'est-à-dire les lampistes, les clapeuses, et puis le quotidien des femmes de mineurs. Il y aura également... que vous dire encore, les techniques qui ont permis d'extraire le charbon dans le bassin houiller de la Loire pendant 6 siècles, donc des affleurements au puits en passant par la fondue, là aussi tout le week-end, le travail donc, et les techniques d'extraction. Des balades sonores qui vont être proposées. Alors ça, c'est un projet un peu particulier qui a été travaillé par Johan Kost, technicien son que l'on connaît bien ici et à Saint-Étienne, qui a monté un projet avec l'école Saint-Edmond et qui donne lieu à cette balade sonore conçue par des élèves de CM1, CM2. qui va permettre finalement de découvrir aussi autrement le puits Courriot ou l'espace Courriot et ses salles patrimoniales. C'est des balades d'environ 35 minutes et c'est proposé le samedi et dimanche sur deux créneaux horaires, 10h-18h, selon la disponibilité bien sûr du matériel et bien d'autres animations encore qu'il serait laborieux de détailler, mais qui sont proposés durant tout ce week-end et ces journées européennes du patrimoine de ces 21 et 22 septembre, et puis toujours bien sûr les salles d'exposition permanentes hein, et les espaces à l'architecture remarquable de ce site. Mais cela nous amène à prolonger cet agenda, Jean-Paul Gachignard, avec une exposition qui va se tenir à l'automne prochain, à partir du 26 novembre, si je ne me trompe. On a parlé des caisses de secours miniers, donc on parle forcément de catastrophes, ou en tout cas d'accidents, et donc de catastrophes, puisque ce sont souvent des accidents qui résultent de catastrophes minières quand même. Vous aviez réalisé une émission ici à la fin de la saison dernière, au printemps dernier, mais là c'est vraiment une exposition qui va se tenir, être installée, une exposition sur les catastrophes minières précisément, donc ouais. À partir du 26 novembre, si vous voulez déjà nous en donner avant-goût.
Oh bah, bien volontiers, oui. Comment dire, donc c'est dans, bon, ça sera dans les locaux d'exposition du musée, l'ancien lavabo, le couloir des douches, avec un audiovisuel qui fera plus ou moins vivre un accident, des explications sur les causes techniques des accidents et sur les évolutions de la sécurité minière, des témoignages d'anciens mineurs et aussi beaucoup d'images de ces catastrophes, dessins, gravures, photographies. Voilà. Et puis aussi, il y aura aussi un livre, pas très épais, mais qui reprendra en partie les mêmes thèmes, qui détaillera un peu plus la chronologie. Il y aura aussi des chronologies. On a aussi en travaux une carte des accidents miniers du bassin.
Voilà. D'accord, à découvrir à partir du 26 novembre prochain. On aura l'occasion d'ici là et sans doute dans les émissions aussi prochaines du Grémos de rappeler ce rendez-vous et cette exposition. Vous nous avez souvent proposé les sons de la mine, quoi, finalement. Image de la mine a aussi fait l'objet d'une émission du Grémos et je crois même d'une exposition, me semble-t-il. En tout cas, d'image, il va en être question et on peut encore faire transition avec cette dernière proposition agenda sur la question migratoire qui est aussi finalement très largement associée à la question minière hein, parce que beaucoup de vagues migratoires et de main-d'œuvre, quoi, finalement aussi, hein, issus de l'étranger, qui sont venus travailler ici à Saint-Étienne et qui ont forgé aussi l'identité de la ville dans sa pluralité, dans sa diversité. On parle souvent aussi dans cette émission de Trace, le réseau régional Trace, qui précisément travaille sur ces questions et qui propose un événement, des rencontres, cinéma, émigration, images migrantes. C'est un événement qui est proposé tout ce mois de septembre. Alors, ce n'est pas à Saint-Étienne même, mais la région stéphanoise sera forcément comment dire, concerné par cette question. Ça va se dérouler à Lyon, ce sont des séances à prix libre, des rencontres diverses, un programme là aussi très dense. Ça va se passer du 25 septembre au 29 septembre prochain. Des rencontres donc à travers projection d'une vingtaine de films pour évoquer divers aspects qui font les images et les imaginaires des migrations d'hier et d'aujourd'hui, les frontières, les questions parfois plus formelles de cinéma, comment on raconte l'immigration par exemple, des prises de parole des migrants, des ateliers de recherche, voire de réalisation proposés à des jeunes arrivants étrangers qui vont pouvoir être proposés dans ce cadre-là avec un accompagnement du réseau Trace, mais aussi de cinéastes, de chercheurs, de représentants du monde associatif, d'institutions concernées, etc. Rencontre donc cinéma, immigration, images migrantes du 25 au 29 septembre. C'est à Lyon pour l'essentiel. Vous avez toutes les infos en détail sur le site de Trace, trace au pluriel, -migration.org et allez sur l'événement rencontre images migrantes de cette fin septembre. Et cela m'amène tout simplement à conclure définitivement avec un dernier rendez-vous encore dans le prolongement de ces rencontres-là et on revient presque au son, non pas de la mine, mais en tout cas de la question migratoire avec Trace qui va proposer avec le Périscope le lieu de de diffusion de concerts à Lyon. Lyon brûle-t-il ? Musique, contestation, quartier populaire, ce sera le 24 octobre prochain. Et Philippe Anus, l'historien, aura l'occasion eh bien, d'aborder à nouveau l'histoire de Carte de séjour, le groupe lyonnais qui a vu Rachita, cette figure hein, un petit peu de cette question-là à Lyon émerger et qui a fait l'objet ici d'une conférence à Saint-Étienne que nous avons proposé via une diophonie précisément puis Courriot au Parc Musée de la Mine fin août dernier. Lyon brûle-t-il avec des lectures musicales avec l'historien Philippe Anus et des musiciens de Carte de séjour qui seront présents. Ce sera à partir de 19h30 le 24 octobre prochain au Périscope donc à Lyon avec je le disais toujours l'intervention de Philippe Anus et puis donc des extraits de musique, de lecture autour de Rachita et de cartes de séjour. Voilà, on va terminer là-dessus, puisque ça fait d'ailleurs l'actualité, autour de Rachita précisément, parce que, on le sait, il est décédé il y a un an, maintenant, c'était en septembre 2018, que hier, précisément 18 septembre, c'était aussi sa date de naissance. Il est né un 18 septembre 58, me semble-t-il. Et que demain, 20 septembre, sort un album posthume de Rachita. Donc voilà, tout est plutôt réuni pour pouvoir écouter à nouveau Rachita et un petit extrait issu de son dernier album, donc Je suis africain, qui va paraître demain, ce 20 septembre, via Naïve. On va écouter le titre Aïta, qui précisément évoque le voyage, la migration, parfois le non-retour même, et bien souvent. Ça s'appelle Aïta, c'est la deuxième plage de cet album à paraître de Rachita, Je suis africain, ce 20 septembre. Jean-Paul Gachiner, merci. On retrouve l'émission du Grémos le mois prochain, troisième jeudi du mois d'octobre, bien sûr. Portez-vous bien, ciao, bye. شفت البلدان العامرين مشيت ما نوليش عاد الناس هربوا منا عاد الناس في الغربة
سافرت رحت عيا وتولي انا رحت وما نوليش ما نوليش ما نوليش